Radioscopie, Jacques Chancel.
Maurice Genevoix.
Vous n'êtes pas seulement un très grand romancier, mais un maître coloriste, un témoin attentif de la splendide nature. Maurice Genevoix, permettez-moi de bien vous situer en ce début d'entretien. Vous êtes né à Decize, dans la Nièvre, le 29 novembre 1890. Et je salue vos 78 ans que vous portez avec une élégance rare.
Et je ne me porte pas.
Maurice Genevoix, vous êtes de ces académiciens qui ont des diplômes. Vous venez de l'école normale supérieure, comme d'autres du théâtre ou de l'archevêché. Marqué par le bruit des canons et le cliquetis des baïonnettes, vous avez écrit « La guerre sous Verdun », au seuil des Guitounes, mais vous avez obtenu aussi le prix Goncourt en 1925 avec l'inoubliable Rabolio. 42 livres dans votre gibecière d'homme de lettres. Route de l'aventure, Marcheloup, La Loire Agnès et les garçons, Jardin sans mur, La dernière Harde, Les deux lutins et le dernier, dont nous parlerons tout à l'heure, Tendre bestiaire, un ouvrage admirable écrit comme toujours avec le cœur. Vous êtes de l'Académie française et vous planez au fait des honneurs. Mais Maurice Genevoix, quel enfant avez-vous été avant d'être l'académicien que vous êtes devenu?
J'ai été un enfant, j'allais dire comme tous les enfants, bien sûr, mais c'est déjà, comment dire, très outrecuidant de dire qu'on a été un enfant comme tous les enfants. En réalité, si vous voulez me situer alors au point de vue, du point de vue qui vous intéresse et qui nous intéresse devant ce micro, eh bien, je crois que j'ai eu un privilège, c'est de naître, il y a longtemps, je n'ai pas besoin de le rappeler après vous, dans un bourg, et dans un bourg rural, dans un temps où les différenciations étaient vraiment extraordinaires, à la fois dans leur clivage, dans leur nuance et dans leur intensité. C'était autant de microcosmes. La perméabilité n'avait rien de comparable à l'instantanéisme d'aujourd'hui, grâce en effet à ces appareils ou aux écrans de la télévision.
Qui vous
affole
pas.
Moi, personnellement, j'essaie en tout cas de ne pas me laisser affoler. Mais en tout cas, chacune de ces bourgades, c'est une petite ville de 4000 habitants, était à la fois très autonome, très individualisée et très différenciée dans ses parties. Alors j'ai été à l'école maternelle, qu'on appelait l'asile, avec des moutards qui étaient fils d'artisans, de boutiquiers, de vignerons, de taillandiers. Enfin, j'ai connu tous les métiers. Et je crois que pour un futur romancier, c'est déjà un grand privilège d'avoir assisté comme à des spectacles tout naturels, des spectacles vivants, des spectacles humains, à, par exemple, au cerclage d'une roue de fardier, ou au façonnement d'un fer rouge sous le marteau d'un maréchal ferrant, ou simplement avoir vu ferrer un cheval. Mais outre cela, je suis passé après par le lycée, c'est-à-dire que j'ai commencé par me fourrer sous le laminoir, et puis la cagne après, l'école normale ensuite, enfin vous vous rendez compte, c'était bien parti, comme on dit aujourd'hui, mais il était déjà trop tard, si vous voulez, pour m'avoir... disons, déformé ou altéré dans cette formation primitive. Vous savez, en tant que romancier d'abord, et en tant qu'homme ensuite, à travers mon expérience de ces nombreuses années que j'ai vécues, eh bien, je suis convaincu de l'importance décisive des 10 ou 12 premières années de la vie, en particulier sur la formation, l'inspiration et sur l'œuvre future d'un écrivain. Je crois que j'ai là des répondants de qualité. Des gens comme Delacroix, par exemple, je crois que c'est lui qui a dit à 12 ans, tout est joué. Peggy l'a répété après lui.
Et vous le croyez?
Moi, je le crois profondément, oui. Proust l'a dit aussi, vous rappelez ce passage, où il parle des chemins de Combray, et où il dit qu'il n'y a qu'une chose qui l'émeut lorsqu'il lui arrive encore de voyager, c'est de rencontrer des pommiers en fleurs, ou une meule dorée, ou une église dorée comme une meule, plus exactement, n'est-ce pas, et qu'il ramène directement sur les chemins de Combray, enfin vous savez quoi, de son pays natal et du pays de son enfance. Je me rappelle, tenez, puisque nous sommes là pour bavarder, on peut y aller.
On peut y aller.
Bon, eh bien je me rappelle Vlaminck, que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup aimé, qui était un homme extraordinaire et à bien des égards admirable. Eh bien, je me rappelle Vlaminck à 80 ans, devant un champ de blé qu'il était en train de peindre, et me disant à peu près ceci, tu vois ce champ de blé? Eh bien, pour moi, ça me ramène dans la plaine de Nanterre, alors qu'il y avait des blés, vous voyez, c'est pas d'hier, dans la plaine de Nanterre, et à une promenade que j'ai faite avec mon père, et j'y suis de nouveau. Je sens ma main dans sa grande main, un peu moite à cause de la température excessive, mais la vibration de l'air, le bleu intense du ciel, le poids des épis, le crissement des grillons, vous savez, des sauterelles et des insectes, j'y suis de nouveau, et chaque fois que même aujourd'hui j'essaie de peindre un champ de blé, eh bien c'est ça qui revient. Voilà un petit exemple entre autres, mais qui est dans le sens de ce que nous disions, vous et moi.
Je connais bien vos livres et en vous écoutant, je retrouve vos phrases. C'est le même cours de la phrase.
Vous croyez ?
Rapide, jolie, tendre, généreuse.
Eh bien, ça me va directement, enfin, disons, au plexus. Mais en réalité, n'est-ce pas, c'est pas si facile que ça, quand même, non ?
Maurice Genevoix, vous avez l'habitude de dire « J'avais 22 mois lorsqu'à l'école maternelle de Châteauneuf-sur-Loire, je pris contact avec l'enseignement républicain et laïque. » Vous êtes très attaché à cette formule.
Pas du tout. Je n'en suis pas détaché non plus, mais enfin, je crois que je suis libre à l'égard de cette formule, comme à l'égard de beaucoup d'autres, d'ailleurs. Il est certain que je ne me dirai pas de l'école laïque. Vous savez, dans la formation, était la formation psittacienne, si l'on peut dire, n'est-ce pas, le par cœur. Mais ça vous colle à la peau, mais à partir du moment où c'est devenu consubstantiel, on s'en fout, ça n'a plus d'importance, ça ne vous gêne pas. Mais si vous pouvez y aller, les sous-préfectures de France... n'importe lesquels, n'importe quel département. D'ailleurs, on m'a eu depuis parce qu'on a supprimé des sous-préfectures. Par conséquent, j'ai traîné un poids mort.
Maurice Genevoix, j'ai l'impression que vous avez été un enfant très heureux. Et ça se retrouve maintenant.
J'étais un enfant heureux, oui, jusqu'à, justement, au tournant, si vous voulez. J'ai eu au seuil... J'appréhende de dire ça ici, mais enfin, au seuil de l'adolescence. J'avais 12 ans et quelques mois lorsque j'ai perdu ma mère. Alors là, vraiment, ça a été un tournant épouvantable. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, tout était joué, en définitive. Mais autrement, non, je n'ai pas eu une enfance heureuse à cause de cela.
Maurice Genevoix, vous appartenez à la génération qui a traversé la très dure épreuve de la guerre des tranchées. Vous avez tiré la mort par la barbe, comme vous le dites.
Oui, elle m'a tiré aussi, d'ailleurs.
Et vous vous souvenez ?
Oh là là ! N'est-ce pas ? Il y a une certaine loi. On nous apprenait ça quand on faisait de la philosophie. Une loi dite de régression ou loi de Ribot. Et c'est vrai, je crois qu'à mesure que l'on avance et que l'on vieillit, cette loi de régression fait que ce sont les souvenirs les plus anciens, dont l'empreinte par conséquent était plus profonde, qui reviennent et qui reprennent une vivacité, une présence et une actualité prodigieuse. Et alors je n'ai pas besoin de vous dire que, aux prises avec une réalité aussi monstrueuse, nous en avons tous, j'avais 24 ans à ce moment-là, été marqué profondément. Et alors, je pourrais vous le dire là-dessus bien des choses, mais c'est une plage de ma vie vers laquelle je me retourne volontiers à cause d'une certaine camaraderie, à cause d'une certaine chaleur humaine, mais avec une espèce de révolte qui renaît à chaque fois, parce que je trouve qu'il est légitime dans toute existence d'homme, à mesure que l'on avance, à mesure que l'on vieillit, et bien de sentir autour de soi des compagnons presque jusqu'au seuil. Mais songez que nous autres, à 25 ans, quand nous nous retournions ainsi, eh bien, il y avait derrière nous surtout des morts. Alors quand on a été mutilé comme moi dans sa chair, et qu'on l'a été ainsi dans une partie de son âme, revendiqué, légitimement revendiqué, nous avions droit, tout homme vivant a droit à ça, eh bien, cela encore, on nous en a privé, on nous en a amputé en quelque sorte. Alors c'est pourquoi je n'aime pas me retourner volontiers sur le plan humain vers ce passé-là.
Mais cette guerre, Maurice Genevoix, vous a armé pour la vie.
Oui, maintenant autre chose, n'est-ce pas ? Tant pis, puisque nous y sommes et que nous sommes là, c'est une radioscopie que vous faites.
Complète.
Bon, eh bien, je ne me dérobe pas. Eh bien, j'ai eu en effet ce malheur d'être dans la nécessité de tuer ou d'être tué. La plupart du temps, lorsqu'on était mêlé à ces bagarres et à ces combats inexpiables, eh bien, on avait la chance de ne pas savoir sur qui l'on tirait et de ne pas voir l'homme que l'on pouvait tuer. On risquait de tuer des hommes à chaque instant. Mais il y a eu des circonstances aussi où on était obligé d'opter entre tuer et être tué. Eh bien, cela m'est arrivé. Et je crois que c'est une chose qui m'a marqué beaucoup. Et si dans mon œuvre, on a pu sentir une certaine pitié pour les hommes, une certaine fraternité presque viscérale, eh bien, je crois que c'est beaucoup à cause de cela.
Vous ne pensez pas, Maurice Genevoix, qu'hélas, on oublie trop souvent actuellement les anciennes 14 ?
Je ne veux pas parler non plus beaucoup de cette chose-là, n'est-ce pas? Il est évident, on ne peut pas... On le dit être et avoir été. Il est certain que nous autres, nous sommes solidaires des hommes, des jeunes hommes que nous avons été. Et alors, nous ne pouvons pas faire le départ. Mais nous ne pouvons pas en vouloir à nos contemporains qui n'ont pas vécu ces choses-là de ne pas savoir discriminer ou, si vous voulez, radiographier en nous, justement, ces parts de jeunes hommes engagés que nous avons été. Par conséquent, je le comprends, je l'admets, et c'est humain, cette sorte d'oubli est peut-être même salutaire dans une large proportion. Mais ce que je voudrais au moins, c'est qu'on permette... assez vieux, enfin, casse-pieds, comme beaucoup le disent trop souvent. Et ils sont discrets, en général, vous savez. On leur a reproché aussi d'être des prébendiers. Mais quand on a été amputé, par exemple, d'une cuisse ou d'un bras à 24 ans, et qu'on s'est vu diminuer dans sa vitalité, mon Dieu, on n'a pas revendiqué, mais on compte quand même sur une certaine gratitude, vous comprenez ? C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a eu cet esprit de déception si âcre, et dès le début. Parce qu'à partir du moment où on nous avait utilisés, eh bien, on nous a foutu hors but. Et alors là que les rebuts en aient eu un petit peu d'amertume et de tristesse, mon Dieu, qu'on le leur permette au moins, n'est-ce pas ?
Dans ce premier quart d'heure, Maurice Genevoix, j'ai retrouvé le Genevoix enfant, le Genevoix combattant. Ensuite, nous allons aborder le Genevoix écrivain. Maurice Genevoix, si l'on veut entendre couler les eaux vives, si l'on veut humer l'odeur des feuilles mortes et voir la biche sauter au-dessus des fourrés, si l'on veut sentir le souffle de l'air pur, il faut lire Maurice Genevoix. Et ce n'est pas un compliment que je vous fais. Votre poésie, car c'est de la poésie dans la prose, c'est de la musique. Maurice Genevoix, vous êtes un homme de la campagne, de la forêt, de la nature. Vous êtes très proche de cette nature que vous aimez.
Oui, mais vous me l'avez dit, mais je le répète, je le confirme, bien sûr. Si vous voulez, je suis citadin en ce moment, puisque nous sommes dans un studio de la radiodiffusion, de l'ORTF, comme on dit, mais j'habite Paris, enfin, presque constamment.
Vous ne vous sentez pas tellement parisien,
si ? Si, Paris vous assimile très vite, je crois que si. À bien des égards, je suis parisien, puis j'ai des hérédités parisiennes. J'avais un grand-père pharmacien rue des Lombards, par exemple, entre autres. Mais par ailleurs, et puis un autre, un grand-oncle, un frère de mon grand-père, il était directeur de la pharmacie centrale de France. Vous savez, sur les quais, là-bas.
Oui, je...
Donc, j'ai des ascendances parisiennes. Mais en réalité, moi-même, on a parlé tout à l'heure de la maternelle, de l'école et du lycée. Eh bien, j'ai habité la campagne constamment jusqu'à 1950. Ça faisait un bail, quand même.
Voilà.
Alors, c'est pas étonnant, en effet, que je sois imprégné de tout cela, mais je suis un citadin de fraîche date.
Je parle de la nature parce que votre dernier livre, Tendre bestiaire, je me permets de le recommander à tout le monde, car c'est admirable.
Chez Plon.
Librairie Plon. Et je vois tout un ensemble de descriptions extraordinaires. Vous parlez de la blette, du castor, du hérisson, du chevreuil, du sanglier, du lapin. Mais par exemple, je me suis attardé sur une phrase du lièvre. Vous dites à un certain moment... Le lièvre est ardent à vivre, gourmand à table, folâtre au jeu et gaillard à l'amour. Et tout le livre, c'est cela.
Eh bien, je crois que c'est parce que je me suis accordé une liberté de ton entière. Ce bestiaire, enfin, je me suis défoulé, vous comprenez. Toutes ces petites expériences, toutes ces rencontres de camarades à plumes et à poils, à quatre pattes ou à mille pattes, petit à petit, c'était enfin engrangé un petit peu en moi. Et un moment est venu où je m'étais dit, oh, il faudra qu'un jour je m'accorde ce plaisir et que je consacre quelques pages de mon entraînement littéraire à leur profit et que je leur donne ça, que je leur restitue en dessin, en portrait, ce qu'ils m'ont donné en joie de vivre. Et alors, pour cette fois-ci, d'ailleurs, il est arrivé une chose assez étrange. À l'origine, je suis parti avec l'intention vraiment d'écrire un bestiaire, c'est-à-dire de me vouer à eux, de m'effacer devant eux. Et puis, ce sont eux qui, comme insidieusement, mine de rien, m'ont tiré petit à petit vers moi-même. Pourquoi ? Parce que j'avais considéré au départ qu'il était sans intérêt, par exemple, de recourir à quelque documentation livresque que ce fût, Par exemple, une encyclopédie générale de sciences naturelles. Et puis là-dessus, de me livrer à des variations, plus ou moins, enfin, de virtuoses, à des variations littéraires. J'ai dit pas du tout une seule source. Ma mémoire, mes souvenirs. Et alors, c'était à la fois rassurant et dangereux, parce que c'est ainsi que je me suis trouvé fatalement ramené à moi-même. Alors, à propos, sous prétexte de ces rencontres d'animaux, et je ne les oublie pas quand même, mais j'ai parlé de moi, j'ai évoqué mes souvenirs d'enfance, je me suis laissé me rappeler, rêvasser, moraliser même à l'occasion, donner mon sentiment sur la vie, sur mes expériences. Alors, le tout sur un ton très, très libre, très abandonné, je ne me suis pas souvent guindé, du moins je l'espère.
Pas du tout.
Mais là encore moins que d'habitude, si possible, voyez-vous. Alors, si ce livre a un intérêt, à mes yeux, enfin pour les amateurs de choses vraies, de la nature, des forêts, de l'herbe, des feuilles, des bêtes, de l'eau qui court, de toutes ces réalités dont on a un peu plus besoin que jamais, je me permets de le dire en passant, eh bien pour tout cela, en effet, j'ai été soumis à l'objet. Mais indépendamment de cela, j'ai, sans l'avoir voulu, j'ai cédé à la pente de ma nature et, en somme, la grosse bête la plus ressemblante dans mon vestiaire, c'est moi.
Vous aimez les animaux, Maurice Genevoix?
Bien sûr.
C'est important pour vous dans la vie.
C'est-à-dire que, pour moi, les animaux font partie d'un monde, vous savez, Shakespeare, le mot connu, il y a plus de choses sur la terre et sous le ciel que n'en explique votre philosophie. Eh bien, le monde, en effet, il y a les hommes sur la terre, et ils m'intéressent beaucoup, puisque je leur consacre une grande part de ma vie, serait-il même académicien. Mais indépendamment de cela, les 60 années dont je vous parlais tout à l'heure m'ont prouvé, et m'ont plutôt maintenu dans la conviction que le monde était infiniment plus riche, plus divers et plus varié, et plus passionnant que, disons, les abstractions, puisque je crois que vous avoir fait hors émission la confidence que j'aurais voulu m'exprimer par des moyens plastiques, en peintre.
Maurice Genevoix, les grands et les beaux livres sont rares. Je n'ai pas l'habitude ici de recommander des livres. Mais celui-là, je le recommande très fortement, car il y a énormément de tendresse. Il y a un plaisir de lire extraordinaire. C'est donc Tendre bestiaire chez Plon. Et maintenant, nous allons retrouver le Maurice Genevoix de l'Académie française.
Ah, j'ai fait une allusion bien dangereuse tout à l'heure.
Maurice Genevoix, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie française depuis 1958. Vous avez remplacé Georges Lecomte et vous avez été élu, rappelons-le, à la quasi-unanimité. 26 voix sur 29 votants. C'est ce que l'on appelle un oui franc et massif.
À l'Académie, oui.
Ailleurs aussi.
Bon.
Cette illustre maison, appelée Académie française, est trop célèbre pour être bien connue. Pouvez-vous me la raconter, Maurice Genevoix?
Ça, non, parce que tout de même, enfin, tout le monde sait, ou personne ne sait, mais ça revient à peu près au même, de toute façon, que l'Académie a maintenant 3 siècles et un peu plus, 3 siècles et un tiers d'existence.
1635.
Oui, enfin, les lettres patentes. En réalité, ça remontait un tout petit peu avant. C'est à l'initiative de quelques gens de lettres, dont Conrart, enfin, imite de Conrart, enfin, tout ce qu'on sait.
Valentin, hein, Conrart.
Valentin, oui. Et Richelieu a entendu parler de ces réunions d'hommes de lettres. Et comme c'était un homme autoritaire qui ne perdait pas souvent les pédales, il s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Vous savez, c'était un temps... Vous savez, il y avait un vieil adage quand j'étais étudiant, enfin, similia similibus. Alors, c'est pas tout à fait ça. Le contexte, comme on dit aujourd'hui à la radio en particulier, n'était pas le même. Mais enfin, à un certain moment, Richelieu a donc eu vent de ces réunions d'hommes de lettres et il a voulu, non pas les annexer, mais enfin, les contrôler dans une certaine mesure. Et il a chargé Conrart et Boisrobert, qui étaient de ses familiers, de codifier en quelque sorte, d'organiser cette Académie nouvelle. Puis alors, de proche en proche, naturellement, il y a une petite brochure que mon secrétaire, Daniel Auster, a pondue, et qui est très bonne et très claire. Alors, les avatars de l'Académie, mon Dieu, il y a eu très peu de choses. Il y a eu la grande secousse de la Révolution, tout ça est bien connu, la suppression au moment de la Convention et de la Terreur, mais l'Académie a prouvé qu'elle avait de la vitalité, elle s'en est pas plus mal portée après. La tête à repousser, si l'on peut dire.
C'est un couronnement pour un romancier d'être de l'Académie française.
C'est pas seulement pour un romancier un couronnement d'être de l'Académie. Enfin, là-dessus, on pourrait alléguer beaucoup d'anecdotes, certaines même assez savoureuses, gratinées, comme on dit aussi à la radio, non ?
Rarement, quand même, gratuit.
Non, 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 mais enfin, à l'Académie, on le dit volontiers.
Ah, c'est gentil.
Bon. Mais en tout cas, beaucoup, enfin, vous savez, tel qui avait dit, bon, les récipiscences ne sont pas rares, puisqu'il a été question, même à un moment, d'évoquer dans les dossiers de l'écran. Je ne sais pas si vous avez entendu parler
de ça. J'ai parlé de ça, oui.
Oui, vaguement, vaguement, oui.
Où il était question de Louise de Villemorin, non ?
Non, il me semble.
Et de Maurice Druon.
Alors là, c'est le terrain académique, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, à propos de ce film La Vie Vert, on pouvait alléguer, par exemple, l'exemple de Robert de Flers lui-même, puisque, et puis enfin, je ne veux pas plonger dans le contemporain, mais les exemples sont multiples. Et beaucoup, je me rappelle, tel homme de lettres, notoire et considérable, m'expliquant en 20 minutes les raisons qu'il avait de ne pas être candidat à l'Académie française, d'où j'ai conclu qu'il y pensait beaucoup, d'abord. Et ensuite, je lui ai dit, écoutez, tout ce que vous m'avez dit m'intéresse énormément, mais ça m'intéressera beaucoup plus lorsque, en beaucoup moins de temps, 5 minutes par exemple, vous viendrez me dire les raisons que vous avez d'être candidat. Alors à ce moment-là, nous en parlerons. Mais je ne désespère pas, soyez tranquille.
Tous les immortels méritent d'être de l'Académie française, ceux d'aujourd'hui.
En définitive, je crois que oui. Je vois votre œil qui s'allume, mais je comprends très bien l'ironie. Mais je veux tout de même mettre les choses au point. L'Académie n'est pas une sélection d'écrivains. Elle est en somme, pour les membres de l'Académie, une sorte de consécration, mais à des titres divers et dans des disciplines diverses. C'est-à-dire que quand un maître du barreau, par exemple, quand un grand chef militaire, quand un grand prélat, quand un grand médecin, vous comprenez, vous me suivez, quand un grand savant aussi, il y a même eu des peintres à l'Académie. Et alors les choses évoluent selon les mœurs, il y a eu beaucoup d'hommes d'église à un moment, sous l'Ancien Régime. Mais enfin maintenant, nous nous satisfaisons avec un cardinal, et serait-il seulement évêque, s'il a du talent, c'est arrivé aussi, nous serions ravis. Mais enfin voilà, c'est une sorte de consécration dans des disciplines différentes, et c'est en définitive un hommage, par, naturellement, vous savez que c'est une option personnelle, c'est nous-mêmes qui nous élisons. Il y a un terme technique en matière de suffrage pour ce mode d'élection, non ?
C'est lequel ?
Ben, je vous le dirai. En ce moment, il m'échappe, mais enfin, la chose est claire, vous comprenez. Bon, eh bien, c'est un hommage que, par option, co-option, si vous voulez, c'est pas mal, ça, co-option.
C'est joli.
Bon, eh bien, un hommage que nous rendons à certains Français que, une sorte de consensus national, consensus, c'est pas mal non plus, n'est-ce pas, a lentement poussé vers l'Académie. Et alors, à ce moment-là, je crois qu'il y a, parmi nous, un sens de cela, de cette opportunité, mais dans le bon sens du mot, de cette convenance national. C'est convenable, à partir d'un certain moment, que tel Français qui a montré qu'il était un Français de qualité accède à l'Académie française. Et alors, pour nous autres, académiciens, c'est quand même un privilège, n'est-ce pas, de pouvoir rencontrer tous les jeudis des gens bien.
Vous vous sentez bien entre vous ?
Oui, vraiment.
En bonne compagnie.
Et il en résulte une sorte de courtoisie assez particulière qui dépasse la courtoisie de convention, qui est réelle, qui est spontanée et qui nous est à chacun, nous la sentons profondément et cela nous est très précieux.
Maurice Genevoix, le secrétaire perpétuel, est toujours choisi parmi les écrivains de l'Académie. Jamais parmi les ducs, les cardinaux, les maréchaux, hélas, nous n'en avons plus, ou les ambassadeurs.
Je ne sais pas, enfin il n'y a... C'est peut-être en fait, vous avez peut-être raison, je n'en sais rien, mais il n'y a pas du tout de disposition statutaire ou réglementaire dans ce sens-ci. Écoutez, je connais mal le règlement de l'Académie alors, mais en tout cas, l'article, pour le moment, m'en échappe.
L'Académie française a ses biens immobiliers.
Oui. L'Académie française avait... Vous savez qu'elle n'a pas été subventionnée, tout au moins par l'État, dans une large mesure. Nous avons tous les ans une subvention de l'État, d'ailleurs assez modeste, et qui nous suffit. Mais nous aurions demandé autre chose à l'État. Alors là, je vais être très irrévérencieux.
Non, mais demandez.
Mais c'est de ne pas nous ruiner. Mais il n'a pas fait exprès, c'était pas intentionnel. Seulement, n'est-ce pas, nous avons eu, par exemple, nous avons été bénéficiaires de dons et de legs. À un moment, c'était très fréquent. Et l'Académie avait, par le moyen de fondations, un assez gros patrimoine. Seulement, il faut remarquer d'une part que ces fondations étaient toutes affectataires. C'est-à-dire que nous devions remplir les volontés du testateur et pas autre chose. C'est pourquoi nos fonds particuliers, nos fonds libres, si vous voulez, sont assez restreints. Mais je passe sur ces détails d'ordre de l'intendance, si vous voulez, et j'ajoute ceci, que d'autre part, nous étions tenus par notre règlement, qui, je le dis tout de suite, s'est libéralisé depuis, heureusement, mais de placer cela en valeur sûre, c'est-à-dire en fonds d'État, ce qui, à travers les évaluations que vous savez, nous aurait intégralement ruinés. L'Académie n'aurait plus un sou à la lettre si, Dieu merci, parmi les legs que nous avons reçus, il y avait eu des legs alors immobiliers, des immeubles. Et alors, j'étonnerai peut-être M. Chancel et peut-être à travers lui quelques auditeurs, mais ça, c'est la vie, n'est-ce pas? Il se trouve que nous avons, par exemple, un immeuble qui est au coin, disons, de la rue du Havre et du boulevard Haussmann. Eh bien, si nous augmentons les baux commerciaux de tel ou tel commerçant occupant cet immeuble, nous pouvons, ipso facto, augmenter le montant du Grand Prix de littérature et du Grand Prix du roman. Mais ça, c'est dans le train de la vie, vous comprenez. Et alors, actuellement, je crois que je fais mon possible, car c'est aussi dans mes attributions, pour tirer le meilleur parti qui se puisse des biens immobiliers de l'Académie. Comme quoi tout se tient dans un pays bien organisé.
Maurice
les locations Genevoix. D'immeubles, les lois immobilières et les prix littéraires.
Maurice Genevoix, les immortels touchent-ils un salaire?
Ah, ça c'est une question qu'on pose maintes fois. Je crois que depuis qu'on nous la pose et qu'on y répond, les auditeurs doivent être amplement informés. Oui, ils touchent un salaire. On a dû vous citer aussi le mot de la biche, non?
Non.
Non, bah, je vais vous le reciter pour la énième fois. On lui disait, une de ses admiratrices, à leur maître, « Est-ce que vous touchez un salaire ?» Elle ne s'appelait pas Madame Chancel, d'ailleurs. Et alors, il a répondu « Très modeste, madame. Seulement, ajoutait-il, on est nourri. »
Mais ce salaire est de combien ?
Ah, vous voulez le savoir ? Bon, il est de 300 francs par mois. Autrement dit...
Moins qu'une femme de ménage.
30 000. Oh, si elle travaille autant que nous, bien sûr, c'est beaucoup moins. Mais enfin, mettez 30 000 francs. Mais alors, on verse le tiers de ces 30 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs, ou 100 francs, lourd, à une masse qui est répartie alors au prorata des présences. C'est une sorte de prime à l'assiduité.
Et ceux qui ne viennent pas aux séances du dictionnaire doivent
toucher leur traitement.
Ah, touche quand même.
Leur traitement, mais 20 000 francs sur les 30. Tandis que les assidus, ils dépassent rarement 30 000 francs quand même, même s'ils ont les jetons de présence intégralement. Parce qu'il y a encore cette petite particularité. C'est une gentillesse que nous faisons à nos confrères les plus âgés. Les quatre doyens d'élection et les quatre doyens d'âge touchent double traitement mensuel. Alors ils se font, si vous voulez, jusqu'à 45 000 à 50 000 francs par mois.
Vous t'avouez que ça n'est pas beaucoup.
Alors avouez ce que vous voudrez, moi je n'avoue rien du tout.
Il y a une chose qui m'a frappé, Maurice Genevoix. Oui. C'est la coquetterie des académiciens français.
Certains, certains.
Je pense à l'habit, par exemple, c'est tout un cérémonial.
Non. C'est vrai que moi, je suis peut-être un de ceux qui sont appelés à le mettre le plus souvent. Alors maintenant, je n'y pense plus. Vous savez, les premiers temps, on a des crises, il y a des boutons qui n'entrent pas, on rouspète, on dit « je ne serai pas prêt », etc. Enfin, c'est tout un cérémonial. Mais maintenant, j'enfile ça comme, je ne sais pas, comme je me mouche.
Votre femme, vos enfants sont fiers de vous voir dans ce bel habit.
Oh non, elles sont blasées, comme moi d'ailleurs, au point de vue de l'habit, enfin de l'esthétique. Mais je pense qu'au fond de leur cœur, enfin, il y a un petit reste.
Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui des Français qui mériteraient d'être de l'Académie française ?
Assurément. Assurément. Mais ces problèmes de cooptation sont délicats et difficiles. Je vous assure que nous les abordons avec, non pas avec transe, mais avec beaucoup de scrupules. Beaucoup. Et je crois peu de partisanerie. Vous voyez, je suis scrupuleux à mon tour. J'ai dit peu, mais très peu, j'ajoute très peu de partisanerie.
Vous voyez, on connaît bien l'Académie française, mais il est important que le secrétaire perpétuel en parle. Maurice Genevoix, vous êtes compositeur, enfin auteur de chansons.
Ça m'est arrivé, oui. Enfin.
Vous en gardez de bons souvenirs?
Oui, oui, bien sûr. Au moins, j'ai passé un bon moment, quoi. C'est mes filles qui m'ont un petit peu glissé vers ça, par moment. De même, vous savez, les livres d'enfants, vous avez parlé des deux lutins tout à l'heure.
Oui.
C'est la même chose. J'ai eu des filles avant d'avoir des filles, puis j'ai eu des filles, et puis enfin j'aime l'enfance, j'aime les enfants.
Elles vous poussent à faire autre chose, vos filles?
Oui, vous avez fait une allusion qui m'a été au cœur, d'ailleurs, à mon état de conservation.
Ah, extraordinaire.
Eh bien, je crois que mes filles sont pour beaucoup.
Est-ce que vous avez pensé à écrire d'autres chansons pour Johnny Hallyday, Claude François, Richard Anthony?
Pour le moment, pas encore, non. Non, puis je crois que... Enfin, oui.
Oui. Maurice Genevoix, vous avez toujours poussé de vigoureuses attaques contre ceux qui corrompent et avilissent notre belle langue française. Et là, vous y tenez.
Oui, parce que, enfin, tout de même, c'est dans la logique, dans le droit fil, si vous voulez, de mes attributions. Et même si ce n'était pas ainsi, c'est plus fort que moi. J'ai appris l'orthographe, par exemple, avec les vieux maîtres, les vieux instituteurs laïcs d'autrefois. J'ai eu le respect de la langue. Et puis, j'appartiens à une génération où on avait, et je ne jette de pierre dans le jardin de personne, mais où nous avions vraiment non seulement le culte, le respect, mais le besoin aussi d'admiration. On était quand même irrévérencieux, notez bien, pas du tout. On avait de la liberté de jugement. À l'école normale, en particulier, l'esprit critique, hein, le canular, on ne s'en privait pas du tout. Mais c'était parfaitement compatible avec un sens des distances, avec un respect d'autrui qui me semble avoir légèrement souffert. Mais là encore, l'irresponsable, c'est plutôt les événements que les êtres. Il est certain que quand vous avez parlé de la guerre tout à l'heure, eh bien, il y en a qui en sont venus démolis avec un mépris, une espèce de renoncement à la collectivité humaine. Ça s'explique.
Maurice Genevoix, vous dites « Je déplore les attentats de plus en plus fréquents et de plus en plus scandaleux que se permettent contre notre langue des gens qui devraient, comme nous, respecter son génie et se soucier de sa santé. »
Eh bien, en prenne qui voudra, moi, vous comprenez, là-dedans, j'ai désigné personne et j'ai désigné tous les responsables.
Est-ce que vous pensez que les gens de la radio et de la télévision...
Souvent, oui. C'est un petit peu, pour parler comme eux, moins pire. Mais en réalité, il y avait beaucoup de choses à dire. Et alors, surtout des tics de langage, ça n'est rien. Tout le monde peut broncher quand on lit un texte, et ça m'arrive comme de plus en plus d'ailleurs. Vous voyez, c'est encore une des marques de sénescence, en attendant la sénilité. À quoi je me surprends? Mais si, parce que, non pas des confusions verbales, mais des achoppements, des cuirs, dont j'ai parfaitement conscience au moment où ils me surprennent, mais que je commets, dont je suis coupable. Donc je ne jetterai pas la pierre à des gens qui, professionnellement, sont appelés à risquer des cuirs. Mais c'est pas ça que je veux dire. Il y a des tics, il y a des habitudes de langage qui sont vraiment désagréables et qui m'écorchent. Moi, je les entends. Nous débutons cette émission par... Ça, c'est une faute contre la langue. Ou alors même des prononciations, les conférences au sommet, les types qui mettent trois consonnes quand il y en a deux, eh bien, souvent, il faut n'en mettre qu'une quand il y en a deux. C'est une question de sensibilité intérieure. Le but, il ne l'arrête pas. Je dis une butte, moi, mais je dis un but. Etc. Enfin, c'est à chaque instant. Je ne veux pas cuistrer. C'est encore une faute contre la langue, ça, cuistrer. Enfin, c'est une création.
Inaccessible.
Je ne veux pas, c'est ça, je ne veux pas. Oui, pour dire autre chose, ça, alors les...
Inaccessible, Marielle Guetschel.
Oui, non, mais c'est ça. Oui, je l'ai cité, d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes bien informé, je m'en aperçois.
Le journal officiel lui-même sacrifie au jargon.
Oh là là. J'en ai cité aussi. Vous pouvez y aller si vous l'avez noté.
Non, je ne les ai pas retenus.
Il y en a. Il n'en manque pas.
Tout à l'heure, nous parlions...
Enfin, vous savez qu'il y a un mouvement général. Il y a des associations dans l'administration. Déjà, du côté de l'ORTF, on s'en préoccupe beaucoup.
Un conseil, oui.
Ah oui, mais vraiment, on a raison. Parce que là, vous savez très bien, et mieux que personne, la puissance de diffusion instantanée... Et d'exemples, aussi bien de bons exemples que de mauvais exemples, dont vous êtes les puissants détenteurs. Et alors, je crois que si l'ORTF veut faire un effort dans ce sens-là, il peut beaucoup dans le sens de la protection et de l'intégrité de la langue. Ça. Et je dois dire que je lui fais la plus grande confiance.
Henri Troyat, que je recevais l'autre jour, me disait « Les romanciers d'aujourd'hui se veulent trop intelligents. » Et on parlait à ce sujet du nouveau roman.
Alors écoutez, moi j'ai eu un jour une formule qui disait en substance ceci. Enfin, si je me trahis, ça n'a pas d'importance, puisque c'est moi qui suis en cause. Mais j'ai parlé de ces gens intelligents, dont la manière d'être intelligent vous ferait remercier le ciel de n'être qu'un pauvre d'esprit. Par conséquent, je vais au-devant de ce que vous venez de dire. Mais j'ai passé quand même, disons, une bonne dizaine d'années de ma vie, et ma belle jeunesse, à sous-peser cette salade, en vue d'obtenir des peaux d'âne, des diplômes. Quand on est passé par la rue d'Ulm, on a eu l'habitude de tripatouiller, enfin, ces notions conceptuelles, etc., etc. Bon, eh bien, je sais ce qu'en vaut la livre. En pêche à la ligne, un de mes camarades disait « Chacun de nos kilos vaut 3 livres, juste. » Eh bien, en matière d'un certain intellectualiste, chacun de ces kilos-là vaut 100 grammes, et encore, et encore. Et alors tout cela, n'est-ce pas ? À partir du moment où certains malins se créditent de théorie, généralement a posteriori, c'est presque toujours pour justifier une impuissance, une théorie, après coup. Bon. Mais à partir du moment où certains malins se créditent devant le public, un public béat et en somme assez jobard, et quand le snobisme s'en mêle, il est encore plus jobard. Et alors en battant l'estrade, et ils disent, après un coup de trombone, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, pour entraver ce que je vais vous dire, il ne faut pas être tombé de la dernière pluie. Il faut être drôlement fortiche. Alors à ce moment-là, ils débitent leur petite salade, en effet. Les gens comprennent ou ne comprennent pas, mais ils ont été tellement enrobés dans la guimauve avant, ou dans le miel, qu'ils se disent, mais je suis fortiche, mais je ne suis pas tombé de la dernière pluie. J'ai entravé tout ça, et ce type-là est très fort. Ce type-là, grâce auquel moi je me sens, vous comprenez, un puissant penseur, etc., etc. Mais la plupart du temps, c'est tout juste au niveau d'une copie d'Agreg. Alors moi, à partir de mes 24-25 ans, j'en avais tellement soupé que depuis, et puis ça doit correspondre à un côté de ma nature, ce que j'admire sur toute chose, vous parliez de Troyat, eh bien Troyat, il a la veine créatrice. Il a la sève qui lui permet d'être un conteur. Et mon admiration, moi, va à ce don, à ce chose qui est irréductible, à des spéculations et à des histoires qui sont à la portée de n'importe quel étudiant prolongé. Voilà, c'est peut-être très excessif ce que je vous dis là, mais je crois que ça touche quand même au fond des choses. Et alors mes grandes admirations, ce sera des créateurs comme Tolstoï, comme Balzac, comme disons Stendhal, qui est aussi un grand romancier, et même Maupassant quand il est bon, ou Flaubert, quand il ne se contient pas trop.
Voyez-vous, Maurice Genevoix, je vous ai écouté, je suis persuadé qu'on vous a entendu.
C'est vous qui le dites, mais enfin, utinam, comme on disait quand j'étais normalien.
Maurice Genevoix, nous avons parlé du jeune enfant, nous avons parlé de l'adolescent, nous avons parlé du guerrier, nous avons parlé de l'écrivain. J'aimerais que vous me parliez du père de famille. Je crois que vous êtes un bon père de famille.
Alors là, comment voulez-vous que je vous réponde? Enfin, quand
comment
même,
êtes-vous
oui,
avec
si,
vos
s'il suffit d'aimer ses enfants, bien sûr, je suis un bon père de famille. Et je suis un père de famille qui fait ce qu'il peut et qui a toujours fait ce qu'il a pu. Et qui, quelquefois, a eu le sentiment qu'il ne pouvait pas ce qu'il aurait dû pouvoir. Mais, en définitive, vous connaissez Sylvie, vous connaissez...
Elle vous écoute sans doute en ce moment,
vous connaissez
alors.
Pas Françoise. Eh bien, vous leur demanderez. Mais j'aurais une surprise bien pénible si elle ne confirmait pas ce que... Non pas ce que j'ai dit, mais ce que vous avez dit, cher monsieur Chancel.
Est-ce que vous leur accordez beaucoup de liberté?
Il n'est pas question de leur accorder, maintenant.
Mais enfin, d'une manière
vous savez,
générale...
Quand même, mais non, mais Sylvie qui m'aime, sûrement, mais vous répondrez qu'elle est majeure, quand même, vous comprenez, elle me répondrait ça avec tendresse, mais je veux pas la mettre dans la situation de me le dire, bien entendu. J'essaie de comprendre, j'essaie d'être aussi, vous comprenez, aussi proche que possible, et au fond, c'est comme ça qu'on aime.
Maurice Genevoix, vous habitez ce qu'on appelle un appartement de fonction, et vous en avez de la chance d'être où vous êtes.
Oui, enfin, il y a du pour et du contre. C'est un appartement très noble.
Qui est Conti,
qui est dans le palais de l'Institut, le monument. Alors, le palais Mazarin est un admirable, un des plus beaux monuments de Paris. Et il est certain qu'à mains égards, c'est un privilège d'avoir en face le Louvre, à droite la pointe de la cité, et à gauche la coulée de la Seine vers le Grand Palais. C'est très beau. Comme paysage urbain, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup au monde qui puisse être comparé à celui-là. Mais alors les inconvénients, il y en a d'autres. On se défend contre le bruit, alors il y a de loupes fenêtres, alors on est confiné, alors on met de l'air conditionné, alors on a la bouche ouverte, etc.
Vous avez enfin, de beaux tableaux.
J'ai des tableaux, oui, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que j'aurais voulu m'exprimer plastiquement. Et quand j'ai eu 15 ans, je m'étais dit que je me rattraperais tout au moins sur l'œuvre des autres peintres. Et alors j'ai des tableaux de peintres défunts, consacrés, j'ai des tableaux de jeunes, enfin comme on dit, je me dilate, vous comprenez, voilà.
Au XVIIIe siècle, j'ai appris, les dames de petite vertu trouvaient commode de recevoir chez vous leurs admirateurs.
Oh, là-dessus, alors, on pourrait raconter des quantités d'histoires. Vous savez qu'il y a une loi des palais nationaux, quel qu'il soit, et comparable, c'est une loi physique, comparable à la loi des vases communicants. À l'instant précis, mais alors il n'y a même pas de transition, à l'instant précis où un palais national est vide, il est plein. Et alors, quand, par exemple, le palais Mazarin a été achevé, on est venu trouver le grand ministre, qui était Colbert, on disait déjà le Premier ministre à ce moment-là. Et on lui a dit, monsieur le Premier ministre, le palais est terminé. Alors Colbert a dit, mais alors nous allons procéder à la répartition des locaux. On lui a dit, mais monsieur le Premier ministre, c'est fait, c'est plein, il y en a partout. Et en effet, le palais était bondé jusqu'à... En effet, il y avait beaucoup de dames de petite vertu, mais il y avait tel seigneur qui avait requis pour son personnel, pour sa maison, comme on disait, 40 ou 50 chambres. Et alors, il y avait des squatters, enfin, il était plein intégralement. Je dois dire que Flaubert y a mis bon ordre. Et ça lui était peut-être plus facile que cela a été depuis, car lorsque je suis venu habiter le palais, il y avait des occupants. Et pour avoir mon appartement, l'appartement auquel j'avais droit statutairement, il a fallu négocier et polémiquer contre une société belge, contre la société asiatique, contre... Il y avait des occupants partout, et abusifs, et qui se sont défendus avec bec et ongles. Il y a eu des campagnes de presse, enfin je ne peux pas vous dire. Vraiment, nous l'avons conquis de haute lutte, cet appartement qui nous revenait.
Maurice Genevoix, vous recevez beaucoup. Dans le fond, vous êtes très parisien.
Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, que Paris, quand on y avait mis le petit doigt, on était possédé. Vous savez, il y a des vocations. Je le dis souvent à mes amis, ils me disent que non, mais ils le croient profondément. Il y a la vocation du poirisme, j'appellerais ça. Et alors, je crois que je suis, enfin, disons, la poire numéro un. Enfin, il en faut bien partout.
Il y a actuellement, Maurice Genevoix, un bouleversement de la société. Par exemple, je pense aux prêtres contestataires, je pense aux prêtres qui demandent le mariage, qui veulent le mariage. Votre idée, tout de suite?
Là-dessus? Ah, alors, pardon, non. Je vous dis non. Je ne suis pas prêtre.
Vous avez fait sous la coupole l'éloge de Georges Brassens. On va terminer sur une note heureuse.
Musical. Eh bien, je crois qu'il y a eu des initiatives, mais si l'Académie, d'ailleurs, n'a pas justifié, dans tous les cas, elle a toujours fait de son mieux, mais dans le cas particulier, je crois qu'elle a voulu rendre hommage à une forme de poésie populaire qui fait partie de la poésie personnellement, si vous voulez, mon sentiment personnel. Alors, j'ai la plus grande admiration pour une certaine veine poétique populaire qui a couru à travers les siècles de notre pays hautement civilisé, qui est une des formes de cette belle civilisation française, si humaine, si directe, si émouvante.
Brassens traînait, ça ne serait pas impossible à l'Académie française.
Ça, nous en parlerons à la prochaine émission.